L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Le week-end des 7 et 8 décembre prochains, après 5 années de travaux, Notre-Dame rouvrira ses portes au grand public. Après la stupéfaction provoquée par l'incendie en 2019, puis les vives discussions qui s'en sont suivies sur sa restauration, le monument va retrouver progressivement sa gloire universelle. Après tout, elle a survécu à tant d'événements, mais connaissez-vous vraiment son histoire, ses premiers bâtisseurs, ses secrets architecturaux bien gardés et les passions enflammées qu'elle a déclenchées? Cette semaine, l'envie de savoir vous entraîne dans les coulisses de l'histoire de Notre-Dame avec Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été notamment directeur du patrimoine au ministère de la Culture. Vous êtes membre correspondante de l'Académie des Beaux-Arts. Et vous avez publié en 2023, chez Gallimard, un très beau livre sur Notre-Dame, La gloire de Notre-Dame. Vous racontez dedans autant son histoire religieuse qu'artistique que politique. Alors, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui dans notre studio pour raconter l'histoire de cette cathédrale. Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, vous débutez ce livre sur l'incendie qui a consumé Notre-Dame le 15 avril 2019. Un événement monstre, pour reprendre les termes de Pierre Nora, qui a stupéfié des millions de personnes. Mais de cette tragédie, vous dites, il y a une bonne nouvelle. Les travaux et les observations qui ont suivi l'incendie ont permis de dévoiler certains mystères scientifiques et architecturaux de la cathédrale. Ça, c'est notamment l'historien Patrick Boucheron que vous citez qui fait ce constat.
Oui, oui, c'est vrai. Les moyens considérables qui ont été mis sur la restauration grâce à la générosité elle-même considérable du monde entier. Hein, 190 pays ont contribué quand même à la restauration. Près de 850 millions ont été rassemblés. Ça a permis de concentrer les moyens techniques, des artisans, les meilleurs, etc., mais aussi des scientifiques. Le CNRS a quand même formé 9 équipes différentes de scientifiques pour étudier le chantier, la cathédrale, son histoire, son retentissement. C'est vraiment c'est sans équivalent. Alors, ce n'est pas de trop parce qu'en fait, Notre-Dame de Paris est un édifice très mal connu.
Malgré sa popularité, voilà, scientifiquement.
Oui, parce que justement, elle a tellement été toujours assidûment fréquentée, un lieu de pouvoir central, de cérémonie permanente, qu'en fait, on n'a pas pu la fouiller, l'explorer. Et en particulier, on ne sait pas exactement où étaient les cathédrales précédentes, parce que ce n'est pas du tout la première cathédrale Notre-Dame. Elle n'est pas la première à porter ce nom. Elle n'est surtout pas la première cathédrale de l'île de la Cité. En fait, il y en a 4 autres avant. Voilà. Et parmi les mystères, il y a où étaient les cathédrales précédentes, et notamment la cathédrale antique. Alors, on ne sait toujours pas où est la cathédrale antique. La seule certitude qu'on ait, c'est l'implantation d'une cathédrale romane, celle qui l'a immédiatement précédée, qui a été démolie alors qu'elle n'était pas du tout ruinée, pour construire la cathédrale gothique, et l'emplacement d'une immense cathédrale dont on a les dimensions considérables, et qui est probablement une cathédrale carolingienne, donc 9e siècle, qui est d'une taille tellement extraordinaire que déjà, elle montre l'importance du diocèse de Paris à cette époque. Il est vrai que Paris est un endroit important depuis toujours. S'il y a une cathédrale antique au IVe siècle dans l'île de la Cité, c'est parce qu'il y a aussi un palais impérial. C'est une forteresse à la limite de l'Empire romain, et donc l'empereur, certains empereurs romains y séjournent. Et c'est pourquoi d'ailleurs la cathédrale est tout près du palais, à l'époque antique, est entourée d'une forteresse pour la protéger. Voilà. Donc il reste qu'on ne sait pas où était la cathédrale mérovingienne, où était la cathédrale antique, et on ne sait pas non plus beaucoup de choses. On n'a pas de certitude exacte sur le calendrier de construction de Notre-Dame de Paris, et les travaux de restauration ont remis en cause ce calendrier. Oui. Et il est possible, d'ailleurs, que cette remise en cause ne soit elle-même que provisoire, et que l'avancement des fouilles et aussi la grande exploration qui va être fascinante des archives du chapitre de Notre-Dame de Paris, archives qui sont tellement gigantesques qu'elles n'ont pas été vraiment étudiées, et les moyens, encore une fois, mis sur toutes les suites de l'incendie vont permettre
de faire avancer encore
la connaissance en espérant trouver des mémoires de travaux, des détails, etc., permettant d'éclairer les zones sombres. Il y en a encore beaucoup.
Alors, Alors aujourd'hui, il y a un nom qui est fortement rattaché à Notre-Dame, un nom qui fait couler beaucoup d'encre, et on en reparlera plus tard. C'est l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, connu pour ses travaux de restauration sur la cathédrale au XIXe siècle. Mais il y a un nom beaucoup plus ancien et beaucoup moins connu du grand public aujourd'hui, c'est Maurice de Sully. C'est un prédicateur qui est considéré comme le premier bâtisseur de Notre-Dame. C'est lui qui lance le chantier au XIIe siècle.
Oui, il lance ce chantier probablement dès son élection comme évêque de Paris. Il était élu en 1120. Il y a une tradition selon laquelle, mais tardive, selon laquelle la première pierre de la cathédrale aurait été posée en 1123 avec le pape. Légende, probablement, qui arrangeait les chanoines à l'époque où elle a été écrite, mais dont il n'y a aucun témoignage contemporain. Et j'ai les plus grands doutes sur cette cérémonie, déjà, qui n'est pas liturgique. Et ce qui doit être fait, c'est la consécration du maître-autel. Ça, on sait quand elle a été faite et en présence de qui. C'était le nonce du pape. Là, qui est... Il n'y avait ni le roi, ni le pape. Il y avait le nonce du pape et l'évêque. Parce qu'à l'époque, le diocèse de Paris n'est pas un archevêché. Il dépend de l'archevêché de Sens. Maurice de Sully, donc, est le grand bâtisseur. Et il décide de construire cette cathédrale, alors qu'encore une fois, il accède à l'évêché avec une cathédrale romane qui est très belle.
Hein, qui était déjà très bien,
et
oui.
Qui est très bien, et il décide de construire la plus grande cathédrale du monde occidental, tout simplement. Voilà. La plus grande, la plus haute, la plus large, la plus extraordinaire, la plus... Et c'est un projet fou, alors que Maurice de Sully, par ailleurs, est un paysan, bien dans sa tête, effectivement, un grand prédicateur. Et il va laisser d'ailleurs des sermons pour les curés de Paris dans son héritage. Il n'est pas de grande famille, il vient d'une famille modeste, mais il a l'appui du roi, qui est Louis VII, le pieux. Et ils ont en commun d'avoir été élèves à l'école cathédrale de Paris, puisque Louis VII, qui n'était pas destiné à régner, n'a pas été élevé comme tous les rois capétiens qui ont précédé à l'abbaye de Saint-Denis, mais dans l'école de Notre-Dame, école célèbre au Moyen-Âge, notamment pour le plus célèbre de ses maîtres, et sulfuré d'ailleurs, Abélard.
Alors ce Maurice de Sully, qui veut édifier le plus grand monument religieux au monde, c'est un projet très audacieux, et d'ailleurs on va lui reprocher cette audace, parce qu'on peut voir dans ce projet un geste de démesure, d'hubris presque. Comment il va justifier ce projet de construire cette cathédrale?
Il n'a pas justifié, mais on a des textes médiévaux qui expliquent que quand même la cathédrale, c'est quand même l'église du Christ, et donc elle exalte la puissance de l'église. C'est une période de conquête encore pour la chrétienté. Il y a des hérésies qui menacent, il y a des schismes aussi qui menacent. D'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter très tôt, les menaces schismatiques. Et donc, il y a une exaltation de la puissance de l'Église. Il y a toute une série de textes qui expliquent pourquoi les tours doivent être formidables, pourquoi la hauteur est significative, pourquoi on fait une flèche, à quoi sert le coq qui réveille le chrétien. C'est pas le coq gaulois, c'est le coq qui sonne les heures du matin et qui réveille le chrétien qui dort alors qu'il devrait prier. Voilà. Et donc, il y a toute une symbolique sur les grandes roses en vitrail, etc. Très, très élaborée. Mais il est toujours question d'exalter l'Église du Christ. Mais il y a un autre courant dans la chrétienté médiévale qui, elle, exalte plutôt la pauvreté du Christ et de son Église.
Oui.
Et l'évêque et son projet, qui est très coûteux, qui va mobiliser d'énormes ressources et de très longues années de construction, va être critiqué par son contemporain Pierre Le Chantre, grand théologien, qui sera lui-même élu évêque de Paris après la mort de Maurice de Sully, et qui lui reproche de gaspiller l'argent des pauvres, et alors que l'Église n'a pas à être aussi en tentatoire. Mais vous savez, ça, c'est un courant qui va s'illustrer aussi avec Saint Bernard, chez les cisterciens, et donc il ne faut pas faire de foin, comme on dirait aujourd'hui, il faut être modeste, comme le Christ l'était. Alors ça va vers Saint François d'Assise, etc. Mais ça n'est pas tellement l'esprit des évêques. Les évêques sont des seigneurs temporels. Ce ne sont pas comme les abbés, ils ne sont pas uniquement chargés des clercs, ils sont chargés de tout le diocèse, ils sont chargés du peuple, ils sont chargés de l'économie, de la prospérité. Ce sont des grands propriétaires, ce sont aussi des féodaux en réalité. Certains même combattent l'épée à la main. Il n'y a pas que dans la geste de Charlemagne qu'on voit un évêque brandir une épée. Il y a d'autres cas plus tard. Et donc, ce n'est pas tellement... le style des évêques d'être modestes et de chercher la pauvreté. Mmh. Eux, ce sont des gouverneurs. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont hérité d'un certain nombre de traits des organisations romaines. Les diocèses sont calqués sur les anciennes circonscriptions de Rome. L'organisation officielle de l'Église fait beaucoup penser à l'Empire romain. Mmh.
Alors, on parle de cathédrale de style gothique avec ses grands arcs-boutants, ses grands vitraux qui sont censés laisser passer plus de lumière. On loue la virtuosité, la créativité architecturale de cet édifice. Tout ça, c'est très nouveau en fait pour l'époque. Mais il y a quand même quelque chose d'assez particulier et propre à Notre-Dame, c'est son obscurité. Quand on rentre dans Notre-Dame, on rentre dans un édifice très sombre. Alors, il y a ceux qui vont critiquer ça, qui disent qu'on n'y voit rien, d'autres qui vont dire qu'au contraire, c'est un lieu très propice à la méditation religieuse. On va pas prendre...
C'est pas la même époque. Hein.
C'est pas la même époque. Mais comment expliquer cette obscurité qu'il y a ces longs vitraux qui
Oui, puis surtout, elle est d'une élévation extraordinaire.
Oui.
Elle a une forme strictement basilicale, c'est-à-dire en fait rectangulaire. La basilique, c'est une forme romaine, qui est civile en fait, pas religieuse particulièrement. Et elle a surtout une immense élévation de la nef. C'est très haut, c'est ça qu'on admire surtout. Mais comme c'est particulièrement haut, une audace extraordinaire, elle fait 10 mètres de plus que la plus grande cathédrale d'avant, ce qui est 50% de plus en hauteur.
Immense.
10 mètres, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un exploit extraordinaire. Donc, les maîtres d'œuvre ne sont pas très rassurés sur sa stabilité. Et donc, ils vont mettre ceinture et bretelles pour être sûr que ça ne s'écroule pas. Et donc, ils vont faire, par exemple, des contreforts à l'extérieur pour combattre les poussées. Mais ils vont mettre à l'intérieur des tribunes. D'ailleurs, on peut assister aux cérémonies depuis la tribune. Ça permet de loger plus de fidèles, mais aussi, surtout, de conforter de l'intérieur les murs. Et puis, ils vont rajouter les arcs-boutants. Mais les tribunes assombrissent. Et en plus, il faut mettre les fenêtres plus haut, puisque les tribunes empêchent d'éclairer les parties basses de la cathédrale. Alors, au XIIIe siècle, on va rehausser encore la voûte pour pouvoir gagner de la place pour les fenêtres, pour les ouvertures, et mettre plus de lumière. Mais la cathédrale reste sombre. Et c'est un reproche qui lui est fait à l'époque médiévale, parce que le gothique recherche la lumière. C'est aussi, d'ailleurs, une symbolique religieuse très forte. La lumière, c'est Dieu. Et donc, on va admirer Notre-Dame de Paris pour ses dimensions extraordinaires, mais quand même faire cette réserve qu'elle est trop sombre. C'est plus tard, à la fin du XVIIIe ou XIXe siècle, que l'obscurité deviendra un atout pour Notre-Dame de Paris, parce qu'elle correspond à la sensibilité du XIXe siècle qui recherche l'ombre. Et c'est là où, tout d'un coup, on se dit qu'on prie mieux dans les coins obscurs, et donc ça va devenir un atout de la cathédrale. Mais ce thème de la lumière et de l'obscurité, vous le retrouvez aujourd'hui. Le clergé trouve toujours que c'est pas assez éclairé, donc lui, il veut y voir clair. Mais donc, il y a toujours des sujets, il faut blanchir les murs, il faut mettre des vitraux moins sombres.
Est-ce que les travaux qui se poursuivent encore aujourd'hui, qui vont continuer après la réouverture, est-ce qu'ils vont rendre cette cathédrale plus lumineuse ?
Ils vont la rendre plus claire, ça c'est sûr, parce qu'on va retirer les siècles de suie et de, surtout de fumée, de cierges qui ont obscurci les murs. À l'époque médiévale, les murs étaient peints. Ils ont été blanchis au XVIIIe siècle. D'ailleurs, il y a des textes qui le déplorent en disant qu'une cathédrale, ça doit être sombre. Déjà, c'est là qu'apparaît le thème de l'obscurité bienvenue. Mais là, elle va être nettoyée complètement et on va la voir dans un éclat qu'elle, en fait, n'a jamais eu, puisque elle, sa construction s'étant étalée sur un très long temps, il y a toujours un endroit sale. Là, tout d'un coup, tout va être propre, lumineux, blanc. Je pense que les gens vont être éblouis. Voilà.
Stupéfait. Ce nom, Notre-Dame, c'est bien sûr une référence à la Vierge Marie. C'est assez caractéristique de cette époque gothique qui commence au XIIe siècle. On met la figure de Marie, qui est alors vénérée au premier plan, au détriment même d'autres personnages, les pères de l'Église, les martyrs par exemple. Pourquoi ce culte-là de la Vierge Marie, dont Notre-Dame est témoin, éclot à ce moment précis de l'histoire ?
Ah, ben c'est ce que raconte magnifiquement Georges Duby dans Le Temps des cathédrales. D'abord, c'est la Vierge n'est jamais morte, n'est-ce pas ? C'est la dormition de la Vierge. La Vierge ne meurt pas. Elle s'endort et elle monte au ciel. Vous avez une représentation de la dormition de la Vierge sur la façade occidentale de Notre-Dame. Donc, en fait, c'est une conjuration contre la mort, la Vierge. Et puis, c'est l'exaltation d'une figure féminine idéale dans un monde de brutes. On est à la fin de la féodalité. Le sort des femmes n'est pas particulièrement enviable. Et donc, il y a une idéalisation de la femme, à la fois à travers le discours courtois de la dame désirée par son chevalier désiré, mais comme le dit Georges Duby, il faut quand même qu'il aboutisse à une fin, hein, n'est-ce pas ? Ah, oui. Désiré, mais assez charnellement quand même.
Oui, pas
la Vierge, par contre, elle est complètement idéalisée. Et donc, c'est cette époque brutale qui commence à se civiliser. Et la figure de la Vierge sublime les duretés, les brutalités, la bestialité de cette époque. Mmh. Et, encore une fois, ayant échappé à la mort, dans cette période aussi, on meurt beaucoup et jeune, ça permet de conjurer ce sort fatal.
Mmh. Alors, par son élégance, son équilibre, Notre-Dame devient le modèle canonique de la cathédrale. Elle va se fondre dans le paysage pictural, littéraire de la France. Dans votre livre, vous avez mis énormément d'illustrations. C'est très agréable à regarder. On peut tomber sur de nombreuses enluminures médiévales qui la représentent. Au Moyen-Âge, justement, quel est le public qui va la fréquenter ? Quel est son usage ?
Alors, c'est l'église de l'évêque, ça n'est pas l'église paroissiale. Hein. On ne va pas entendre la messe à Notre-Dame de Paris toutes les semaines ou tous les jours. Hein. C'est le lieu des célébrations. Alors, c'est le lieu où les chanoines prient, bien sûr. C'est à la fois l'église de l'évêque et celle du chapitre. Alors, le chapitre, c'est l'ensemble des clercs qui mènent une vie quasi monastique. Enfin, ce ne sont pas du tout des religieux, ce sont des séculiers. Hein. Mmh. Ils exercent des fonctions à l'intérieur de la cathédrale, qui est tout un petit monde qui gère aussi des biens, l'hôpital, l'école dont j'ai parlé avec des centaines oui. d'étudiants qui est très célèbre, qui a aussi des fonctions de police puisque sur le territoire de l'évêque et du chapitre ça n'est pas la justice du roi qui s'exerce, c'est la justice de l'évêque. Hein. Il y a tout un ensemble de fonctions assurées par les chanoines, donc c'est l'église des chanoines et de l'évêque, chaque chanoine d'ailleurs va avoir son autel hein, où célébrer sa messe, mais ça n'est pas l'endroit où les fidèles viennent écouter la messe, c'est l'endroit où on lieu les grandes cérémonies, les grandes liturgies cérémonielles et d'où l'évêque gouverne son diocèse. Voilà. Et elle est entourée d'ailleurs, au Moyen-Âge, d'énormément d'églises au sein même de l'île de la Cité. Il faut voir qu'à proximité de la cathédrale, vous avez 2, 3, 4, 10 églises dans ce petit territoire où vont, pour le coup, le menu peuple, j'allais dire. Mmh. Et puis, bien sûr, c'est là où on entend la parole sacrée et où résonnent les musiques sacrées aussi. Alors, l'autre grande importance de Notre-Dame dans notre histoire, c'est l'importance de la musique de Notre-Dame, la musique médiévale, où vont s'inventer les premières musiques qui vont faire l'histoire de la musique occidentale, qui vont la séparer de son origine byzantine, avec l'invention des polyphonies, dites mesurées, c'est-à-dire on entend la mesure, c'est scandé, c'est chanté par des chantres, hein, qui sont eux-mêmes des clercs, ils sont intégrés dans l'école, qui est dans la cathédrale. La musique fait partie de la liturgie et ils sont dirigés par le chantre. Le fameux Pierre le Chantre s'appelle comme ça parce que c'est le chanoine chargé de diriger la musique. Mais il y a dessous des grands musiciens et il y a deux noms très célèbres dans l'histoire de la musique de Notre-Dame au Moyen-Âge. C'est Léonin et Pérotin le Grand. Voilà, ce sont les inventeurs de la polyphonie médiévale chantée qui vont ensuite se développer à la fois sur le plan de la musique religieuse et de la musique profane puisque les mêmes techniques vont être utilisées pour développer des pièces profanes et des pièces religieuses, quelquefois chantées l'une sur l'autre d'ailleurs. On a un hymne à la Vierge, puis au-dessus vous avez chanté la belle Margoton. Hein. Bon, ce mélange va être vite interdit par les évêques qui voient quand même... un affrontement, enfin, une violation du sacré. Mais donc, chaque art va se développer de son côté. Et ce qui va être aussi inventé à Notre-Dame, entre autres choses, c'est la notation de cette musique, qui va lui permettre de circuler dans toutes les bibliothèques, qui sont essentiellement des bibliothèques de couvents ou de cathédrales, hein, et qui va permettre à cet art de Notre-Dame de se répandre dans l'Europe et puis, bien sûr, ensuite de se développer. Ces liturgies chantées, très solennelles, participent d'ailleurs à l'exaltation de l'Église de Paris, hein, puisque souvent les psaumes choisis sont des psaumes soigneusement choisis pour rappeler l'importance de l'évêque, son rôle de représentant direct du Christ sur terre, rôle qui lui est contesté à ce moment-là par l'évêque de Rome, le pape, qui se considère comme le seul représentant du Christ sur terre, mais il va avoir du mal à convaincre l'évêque de Paris de cela.
Vous consacrez de longues pages d'ailleurs sur Notre-Dame et la musique dans ce livre. J'avance un petit peu au fil de l'histoire. Notre-Dame va survivre à beaucoup de tranches historiques. C'est un lieu où s'affirme la foi, mais également le pouvoir. C'est aussi un chapitre, une partie importante de votre livre. Vous expliquez notamment comment les rois de France l'ont utilisé Notre-Dame pour proclamer l'autorité de l'Église de France face à celle du pape. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme.
Voilà. Alors en fait, l'autonomie, en fait.
Oui.
Ce qui est appelé dès Philippe le Bel, et une réunion très importante de 1302 qui a lieu à la cathédrale de Notre-Dame, qui est la première réunion des États généraux, qui rassemble donc le peuple représenté par les bourgeois de Paris, bon, les nobles et les prélats, et qui a pour objet de lutter contre les prétentions du pape qui veut diriger l'Église de France. Et c'est là que sont proclamées pour la première fois, selon une formule qui va faire Florès, les libertés de l'Église gallicane. Voilà. En fait, de liberté, d'ailleurs, ça consiste simplement pour le clergé à accepter que, finalement, son protecteur naturel, c'est plutôt le roi de France, voilà, que le pape. Alors, il va truquer une autorité contre une autre. Mais finalement, pour des raisons complexes que j'essaye d'expliquer, le deal va être passé entre le clergé français et le roi, moyennant des luttes assez féroces quand même, qui quelquefois tournent à l'affrontement physique entre le roi de France et le pape. Mais comme vous savez, le gallicanisme a eu une grande fortune dans notre pays, avec des accords successifs qui ont donné au roi de France une place tout à fait éminente dans le gouvernement des affaires de l'Église. De son Église. Alors certains observateurs d'ailleurs observent que, au fond, le roi de France est devenu le pape de France. Voilà. C'était son ambition. Déjà, il avait réclamé ce que le pape de Rome, pour le coup, lui avait facilement concédé, d'être considéré comme empereur en son royaume, qui est une formule très importante qu'ont demandé les rois de France, et de Philippe Auguste en particulier, ce qui faisait échapper la France aux ambitions, pour le coup, de l'empereur germanique, qui voulait considérer que les rois étaient soumis à l'empereur. Alors là-dessus, le pape l'a soutenu. C'est le pape qui a reconnu que le roi de France était empereur en son royaume. Par contre, en faire le protecteur, plutôt le souverain de l'Église, ça, le pape n'était pas d'accord.
Alors, on l'a compris à ce stade de l'émission, Notre-Dame, c'est bien plus qu'un édifice religieux, c'est un lieu politique. Même après la Révolution, elle reste la paroisse de la nation. Mais comme tout monument historique, le temps finit par l'abîmer et se pose la question de sa restauration au XIXe siècle. C'est à ce moment-là qu'entre en scène Eugène Viollet-le-Duc, dont on a parlé brièvement au début de l'émission. Vous dites que cet Eugène Viollet-le-Duc, c'est un architecte mal aimé qui traîne une légende noire. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cet architecte ?
Alors, on voit un pasticheur, un inventeur même, on l'accuse de trafiquer encore les monuments qu'il restaure. Ça, c'est un premier point, d'être un mauvais architecte.
De son vivant ou après sa mort ?
Surtout après sa mort, effectivement, parce que c'était un homme puissant quand même, qui avait acquis des positions extraordinaires, qui avait une réputation internationale, parce que c'était un grand théoricien, et il a publié des livres qui ont été des best-sellers occidentaux, traduits en anglais, et qui ont inspiré des générations d'architectes. Et il occupait des positions dans le système, le service des monuments historiques est créé au moment même où il obtient le chantier de restauration de Notre-Dame, avec un autre architecte, qui est Lassus, mais qui a le bon goût, si je puis dire, de mourir plus jeune,
avant.
Et donc de laisser Viollet-le-Duc tout seul sur le chantier. Et on finit par oublier Jean-Baptiste Lassus, comme l'autre architecte restaurateur de Notre-Dame. Donc Viollet-le-Duc traîne une légende noire. Vous savez, les architectes des Beaux-Arts ont raconté que encore au XXe siècle, un jeune architecte reçu à l'école des Beaux-Arts devait jurer une haine éternelle à Viollet-le-Duc sur les traités de base de l'école. Voilà. En tout cas, ça a été attesté dans les années 40 ou 50 du XXe siècle. Donc, c'est vous dire à quel point il était mal vu. Et bien sûr, on a tendance à attribuer à Viollet-le-Duc, il y a dans la recherche du temps perdu de Proust des phrases terribles sur les déjections de Viollet-le-Duc. Voilà, c'est vous dire un peu. Voilà. Alors, la légende noire de Viollet-le-Duc, elle est due, à mon avis, mais il faut l'analyser, à deux éléments différents. D'abord, Viollet-le-Duc a été un militant contre l'Académie des Beaux-Arts et le système académique en général. Alors, nous sommes ici à l'Institut de France, donc c'est un ennemi de l'Institut, enfin pas de toutes les académies, surtout de celle des Beaux-Arts.
Parce que l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, lui, ont proposé par deux fois.
Oui, il a refusé parce qu'il a dit « je suis un architecte, je devrais siéger aux Beaux-Arts ». Mais il était surtout ennemi du système académique. Le système académique de l'époque fait dépendre en particulier l'école des Beaux-Arts, qui comprend les cours d'architecture, de l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est ce système qu'il critique, et il a refusé d'entrer, de faire ses études à l'école des Beaux-Arts. Et ensuite, il a voulu séparer l'École des Beaux-Arts de l'Académie des Beaux-Arts. Séparation qui a été accomplie par Malraux en 1968. Voilà. Donc il est quand même visionnaire. Et il critiquait le type d'enseignement qui était dispensé à l'École des Beaux-Arts, notamment qui ne s'intéressait pas à l'histoire de l'architecture. Donc c'est un anti-académique. Et le problème, c'est que, évidemment, quand il est mort, l'Académie, elle est restée. Et donc elle s'est vengée. Biolay-le-Duc mort, il a pu être critiqué impunément par tous les membres de l'Académie des Beaux-Arts qui étaient architectes, qui commençaient à décrier son style, etc. Bon. La deuxième raison pour laquelle Biolay-le-Duc est mal vu, c'est son lien avec le Second Empire, qui est un régime très détesté en France, qui s'est terminé par une défaite cinglante devant les Allemands à Sedan, et qui est un régime honni. Et on a accusé Biolay-le-Duc d'être l'architecte de l'empereur. Voilà. Ce qui n'était pas vraiment, en fait, c'était un proche de Mérimée qui, lui, était un proche de l'empereur. Mais il a construit quand même un château pour l'empereur, il a décoré des wagons, c'est aussi un grand décorateur. Et au fond, il a subi le désamour du Second Empire. Ce qui est finalement assez triste, puisqu'il n'était pas particulièrement bonapartiste, il était plutôt, il s'est dit républicain. D'ailleurs, il a été élu à la Commune de Paris après la défaite de 70. Comme élu municipal sur une liste républicaine. Enfin, ça ne l'a pas arrangé ses affaires, parce que du coup, les admirateurs de l'empereur n'ont pas défendu non plus. Voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles, à mon avis, Viollet-le-Duc est mal vu en France. Mais il est très bien vu à l'étranger, et il est considéré comme un immense architecte, un immense théoricien, et le père de l'architecture moderne, sans compter que c'était un des plus grands dessinateurs de son temps, et qu'il est un des pères de l'art nouveau. Mmh.
Mais alors, un désamour en France, vous dites d'ailleurs dans ce livre que si on a hésité autant après l'incendie de 2019 à reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc, bah c'est notamment parce qu'il suscite encore de la méfiance aujourd'hui, en 2020.
Ah, clairement, on a vu très bien après l'incendie qu'une flèche de Viollet-le-Duc, ça pouvait être jeté par-dessus bord sans absolument aucune espèce d'hésitation. Voilà. Et puis ensuite, quand il y a eu des défenseurs, alors on a entendu un autre discours, notamment de la part de Jacques Lang, disant mais Viollet-le-Duc a complètement créé beaucoup de choses à Notre-Dame de Paris, donc pour être fidèle à Viollet-le-Duc, il faut faire de la création contemporaine. Mais ça aussi, c'est une autre mauvaise interprétation du Viollet-le-Duc qui s'est, en architecte restaurateur, s'est comporté en scientifique et en archéologue. Alors, il a pu se tromper, mais c'était l'homme qui, de son temps, connaissait le mieux Notre-Dame de Paris, qu'il a étudié à fond, il a passé des jours, des nuits, il a tout dessiné, etc. Et donc, il a voulu restituer l'architecture gothique qu'il a étudiée de très près. Donc, ce n'est pas du tout un inventeur en tant qu'architecte restaurateur. C'est un inventeur en tant qu'architecte constructeur.
Voilà. Et vous revenez d'ailleurs dans ce livre aussi sur toutes les polémiques qui ont eu trait à ce remplacement de flèches détruites par l'incendie. Il y a, pour résumer, deux écoles, ceux qui voulaient changer la flèche pour introduire du contemporain et puis ceux qui voulaient la refaire à l'identique. Jean Nouvel, le célèbre architecte, s'était prononcé contre, par exemple. Pourquoi il fallait la reproduire à l'identique, cette flèche ?
Ah, ça, c'est la doctrine internationale sur le patrimoine. Quand on a...
La charte de Venise ?
La charte de Venise, notamment, mais enfin, l'ensemble des conventions internationales. Quand on a une destruction partielle d'un monument et qu'on sait exactement comment c'était avant, on restitue la partie disparue. Voilà. C'est seulement quand on ne sait pas qu'on peut faire autre chose. Ou quand on ne sait plus. Voilà. Ce n'était pas le cas, évidemment, de la flèche de Viollet-le-Duc. Elle est parfaitement documentée, d'autant plus que Viollet-le-Duc l'a lui-même dessinée, expliquée dans son traité d'architecture. Et donc, on n'était pas du tout dans un cas où on avait un doute sur la façon dont on restituait cette flèche. Et d'ailleurs, elle est restituée à l'identique, identiquement, comme diraient, ouais. Comme diraient les enfants. C'est-à-dire, il y a vraiment, au détail près, c'est exactement la même. Et d'ailleurs, comme on avait des moyens scientifiques formidables, on a testé une maquette pour voir s'il résistait aux vents violents que ne vont pas manquer de se déclencher avec le dérèglement climatique. Et la conclusion des scientifiques, c'est on fait vraiment comme c'était avant, parce que ça tient dans
tout
tous les cas.
Tout était déjà parfait, en fait.
Oui, tout était déjà parfait.
À l'époque de Viollet-le-Duc. Vous le défendez dans ce livre, et vous revenez aussi sur sa postérité en architecture. Il a eu des intuitions assez visionnaires sur l'utilisation de certains matériaux, par exemple l'utilisation du métal dans l'architecture.
Oui, et surtout sur les structures autoportées, si bien que l'école américaine le considère comme le père des gratte-ciels. Alors, il n'a pas inventé les gratte-ciels, lui, il a travaillé sur des grandes structures couvrant énormément de place au sol sans appui intermédiaire, c'est-à-dire rejetant toutes les pressions à l'extérieur de façon à accueillir un maximum de monde. Mais c'est parce qu'à l'époque de Viollet-le-Duc, on n'a pas inventé l'ascenseur. Donc, il ne peut pas monter en hauteur. Parce que, bon, dès que l'ascenseur est inventé, quelques décennies après la mort de Viaduc, on peut projeter en hauteur ce qu'il a imaginé en largeur. Voilà. Et avec toujours les structures aéroportées, toutes les charges sont rejetées à l'extérieur. Et je fais la remarque, en fait, le centre Pompidou construit par Enzo Piano et Richard Rothschild, c'est une structure de Viollet-le-Duc où toutes les, voilà, tout est rejeté à l'extérieur et avec l'identification d'ailleurs des fonctions, parce que Viollet-le-Duc tenait beaucoup à ce que, à la distribution fonctionnelle des immeubles qu'il construisait. Il fallait que l'immeuble corresponde exactement à son utilisation et sa fonction. Et l'autre intuition très forte de Viollet-le-Duc, c'est que pour que l'immeuble soit durable et fonctionnel, il faut utiliser les matériaux de l'endroit où il est construit. Et oui, ça va inspirer toute une pan de l'architecture américaine, notamment Wright. Hein. Inutile de vous dire que dans le monde d'aujourd'hui, du développement durable, il faut relire Viollet-le-Duc.
Il porte un héritage important. J'en reviens en 2024, puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques. On a parlé de la flèche. La dernière polémique en date porte sur la possibilité de faire payer l'entrée de Notre-Dame. Ça, c'est une proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati. L'argent servirait à sauver le patrimoine religieux. Est-ce que pour vous, c'est une solution envisageable? Est-ce que vous avez un avis sur la question?
J'ai un avis de juriste. La loi de 1905 s'y oppose absolument. Mais je ne crois pas qu'il y ait une majorité au Parlement pour modifier la loi de 1905, qui est un monument hérité quand même assez fragile, lui aussi, hein, historique, je dirais. Elle l'interdit au nom de l'esprit de la loi de 1905, si vous voulez. La loi de 1905 reconnaît la propriété des communes sur les églises de l'État, sur les cathédrales, enfin ça c'était déjà acquis avant, mais déclare qu'elles sont exclusivement affectées au culte. Donc c'est le clergé qui décide de l'utilisation. Mais il y a quand même une exception, c'est que comme il s'agit d'un patrimoine commun de la nation, c'est la conception patrimoniale que se fait le législateur de 1905 des monuments religieux, il faut qu'ils soient ouverts à tous. Ils appartiennent aux fidèles pour le culte, mais à tous pour la visite et la jouissance du patrimoine. C'est pour que tout le monde puisse y aller qu'il est interdit, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, la loi est très explicite là-dessus, de tarifer l'entrée. Parce que ce serait un obstacle à la visite de tous. Je pense qu'il faut garder l'esprit de la loi de 1905, sans compter que je ne pense pas que le fait de demander un droit de visite aux visiteurs de Notre-Dame, dont on serait sûr qu'ils ne sont pas des fidèles,
oui, c'est compliqué à
suffisent par ailleurs à financer les besoins des autres monuments religieux du reste du pays. Donc il faut chercher d'autres sources de financement que celle-là.
Une affaire à suivre. Il va y avoir un musée Notre-Dame, le musée de l'œuvre.
Oui, il y a une mission de préfiguration pour y travailler, qui a été confiée à quelqu'un qui dirige l'Institut national du patrimoine actuellement. J'espère qu'on trouvera les crédits dans ce monde où les finances publiques deviennent relativement rares. C'est le problème, parce que là, ce n'est pas la collecte pour Notre-Dame Paris qui pourra financer le musée.
Ce qui est certain, c'est que Notre-Dame rouvre prochainement, le week-end du 7 décembre prochain. La réouverture va se faire, mais en réalité, il faudra attendre bien plus longtemps pour que la totalité des travaux soit terminée.
Oui, ce qu'on a fait, c'est la réparation des effets de l'incendie, et même au-delà, parce que, comme je l'ai dit, on a vraiment restauré magnifiquement l'intérieur. Mais il reste à travailler sur tout l'extérieur, le chevet, l'abside, les arcs-boutants. Et là-dessus, les travaux restant à venir sont encore très coûteux. Et puis, il y a ce que va faire la ville de Paris sur le parvis. Donc, on va avoir des échafaudages autour de Notre-Dame pendant longtemps encore. 2028, dit le ministère de la Culture, mais quelquefois, il parle de 2030. Et la ville de Paris aussi parle de 2030 pour le réaménagement complet de tous les abords de Notre-Dame. Mais enfin, bon, elle sera réouverte au public et rendue au culte. Et ça, c'est très important. Comme le rappelle tout le temps l'archevêque de Paris, Notre-Dame n'est pas un musée ni un monument historique, c'est une cathédrale.
Et c'est une première étape. Merci beaucoup, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, pour cette petite mise au point sur l'histoire de Notre-Dame. Je sais que votre temps est précieux, donc merci beaucoup d'avoir été au micro de de l'envie de savoir. Il y aurait tellement plus de choses à dire sur Notre-Dame, donc je rappelle le titre de votre ouvrage, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir. C'est à retrouver aux éditions Gallimard. Et j'ajoute aussi que vous allez faire, donc le 2 décembre prochain, une petite intervention vidéo à l'Académie des Beaux-Arts pour la Nuit de Notre-Dame qui est organisée. Il y aura de nombreux autres invités pour célébrer cette cathédrale. On mettra toutes les infos en ligne pour les auditeurs que ça intéresse. Et bien écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Canal Académie.